Le journal Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous. Il va falloir vivre avec le virus sur le temps long, mais les restrictions liées à l'épidémie sont de plus en plus contestées. Les catholiques se mobilisent aujourd'hui pour pouvoir célébrer la messe. Des rassemblements ont lieu dans plusieurs villes de France. Sur le front sanitaire, la dynamique de l'épidémie semble ralentir, mais les services de réanimation restent sous tension. Il est encore trop tôt dans les hôpitaux pour parler d'une descente de l'épidémie. Le cri d'alarme en forme d'électrochoc de la Fondation Abbé Pierre. Le nombre de sans domicile fixe a doublé depuis 2012. Il y a aujourd'hui 300 000 personnes qui vivent dans la rue, selon la Fondation. Dans ce journal également, la capitale de l'Érythrée touchée par des tirs de roquettes et un vaste accord de libre-échange signé ce matin entre 15 pays d'Asie et du Pacifique. Le Vendée Globe. Après une semaine de course, nous recevrons dans ce journal le navigateur Yann Eliès, deux participations au Vendée Globe. La météo agitée, 5 départements en vigilance orange vague submersion en raison des vents forts et des grandes marées. Le Finistère, la Manche, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais. Jean-Michel Golinski en fin de journal.
France Inter.
Le confinement et les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus de plus en plus contestées en Europe et en France tout au long de ce week-end. Hier, à Nice et à Marseille, plusieurs centaines de commerçants ont manifesté. Ils veulent rouvrir leurs magasins. Et aujourd'hui, les catholiques se mobilisent pour le retour des messes. Plusieurs rassemblements ont lieu aujourd'hui, comme à Nantes et Bordeaux ce matin ou Versailles cet après-midi. En revanche, à Saint-Sulpice, à Paris, le rassemblement a été interdit. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Alors, les catholiques de France se mobilisent donc aujourd'hui pour pouvoir célébrer les messes.
Oui, avec toujours les mêmes arguments. Les églises sont grandes, le respect des gestes barrières est intégré, les messes doivent donc reprendre. C'est ce que réclamait par exemple ce matin Sylvie, catholique de Nantes.
On demande la messe, on demande de pouvoir participer à l'Eucharistie, vivre notre culte comme on le souhaite. Et on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe aujourd'hui. Moi j'ai l'impression qu'il y a de l'abus de pouvoir et voilà. D'accord. C'est ce que je ressens.
Les catholiques qui se retrouvent aujourd'hui sont en fait sur un fil. Manifester, c'est autorisé. Mais à Paris, par exemple, la préfecture de police a donc interdit, vous l'avez dit, un rassemblement devant l'église Saint-Sulpice en expliquant que lors de précédents regroupements au même endroit, il y avait eu prière de rue et que là, ce n'est plus considéré comme une manifestation. C'est, je cite, un événement cultuel interdit en temps de confinement. Invoqué aussi le non-respect des gestes barrières, ce qui a particulièrement agacé Mao de 16, l'une des organisatrices.
Déjà, on avait prévu une vraie équipe, une sorte de brigade Covid, pour pouvoir permettre aux gens de bien être conscients qu'il faut garder le masque sur le nez, sur la bouche, qu'il faut forcément s'écarter et prendre de la distance les uns avec les autres, avec du gel hydroalcoolique dans les poches. Voilà, on aurait lu des textes, ça aurait été assez calme. L'objectif, ce n'était pas de partir de façon très revendicatrice pendant une heure, de partir à l'affrontement avec les forces de police. Donc, on a relayé l'interdiction de la préfecture et voilà, après chacun se sent libre de faire ce que bon lui semble pour cet après-midi en tout cas.
Elle a décidé de rester chez elle pour ne pas risquer la verbalisation.
Julie Pietri avec Julie Munch à Nantes, merci. Sur le front sanitaire et la progression de l'épidémie de coronavirus, le frémissement à la baisse se confirme, la dynamique de l'épidémie ralentit et cette décrue pourrait s'amorcer dans certains services de réanimation la semaine prochaine, même si pour l'instant, il est encore trop tôt pour parler dans les hôpitaux et dans les services de réanimation d'un début de descente de l'épidémie. Jean-François Serfon est chef de service de réanimation à l'hôpital de Colmar dans le Haut-Rhin, où la situation, dit-il, est stabilisée.
Pour le moment, au stade où on vous parle, les choses semblent bien contenues puisqu'il n'y a qu'une seule des réanimations de l'hôpital de Colmar où il y a en temps normal 30 lits, une seule est remplie à l'heure actuelle et ça semble se stabiliser depuis plusieurs jours. Même si on a vu depuis le 4 novembre les chiffres d'admission dans l'hôpital monter, le 4 novembre on avait 45 malades hospitalisés, il y en a 75, peut-être 76 au relevé du 13 novembre, mais pour le moment les choses pour les réanimations semblent se maintenir.
Chez nous à Colmar, actuellement, c'est pas comparable à ce qu'on a vécu vers le 10 mars. Alors on est peut-être, il faut être prudent, à l'équivalent avant de la fin février, et encore, je ne crois pas. Mm-hmm. Mais pour le moment, ça semble stabilisé. Hein.
Jean-François Serfont avec Matteo Maestracci. Cette deuxième vague de l'épidémie a des conséquences dramatiques sur le plan économique. La Fondation Abbé Pierre parle de bombe à retardement pour les plus fragiles et les plus précaires. En raison de cette crise économique, du chômage et des loyers que beaucoup risquent de ne plus pouvoir payer, la Fondation Abbé Pierre estime qu'il y a aujourd'hui 300 000 personnes sans domicile fixe en France et alerte sur la reprise des expulsions au printemps prochain. Le nombre de SDF a doublé depuis 2012. Manuel Domergue, porte-parole de la Fondation Abbé Pierre.
C'est une aggravation extrêmement rapide et il faut bien comprendre que ce que l'INSEE appelle des sans-domicile, ce sont à la fois les personnes qui dorment dehors, c'est le plus spectaculaire, c'est le plus terrible, mais c'est aussi les personnes qui n'ont pas de domicile au sens où elles sont en hébergement, souvent en hébergement d'urgence pour quelques nuits, et c'est aussi une réalité très grave. Donc souvent, le gouvernement, depuis des années, et c'est pas que celui-ci, a répondu aux personnes qui étaient à la rue avec l'ouverture de davantage de places d'hébergement. C'est un vrai effort et c'est évidemment beaucoup mieux que d'être à la rue, mais ça ne sort pas les gens de leur situation de sans-domicile. Ce qui leur permet de s'en sortir, c'est d'avoir un vrai logement, un logement pérenne de droit commun. Et ça veut dire avoir une politique du logement, avec des logements sociaux, avec des APL plus importantes, mais aussi avoir des revenus pour les personnes qui ont des très bas revenus, donc augmenter le niveau des minima sociaux, élargir l'accès aux minima sociaux pour les moins de 25 ans, et puis aussi régulariser les personnes en situation irrégulière, parce que ces personnes ne peuvent pas accéder au logement social ou aux minima sociaux.
Manuel Domergue avec Lionel Thompson, trois personnes interpellées après la fête géante et clandestine à Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne. Le gardien, le propriétaire du pavillon et l'organisateur de la soirée qui a dégénéré ont été placés en garde à vue dans la nuit de vendredi à samedi. La police a dû intervenir pour mettre fin à une soirée organisée en plein confinement. 400 personnes s'étaient rassemblées au mépris des règles sanitaire. Le maire de Joinville-le-Pont va porter plainte dès lundi contre les organisateurs de cette fête. Et puis dans l'Essonne, une policière a été gravement blessée cette nuit après avoir été percutée par une voiture lors d'un contrôle sur un camp de gens du voyage aux Ulysses. Trois personnes ont été interpellées pour détention d'armes. Le chauffard est toujours en fuite.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
La capitale de l'Érythrée, Asmara, touchée par des roquettes, des tirs revendiqués par la région du Tigré en Éthiopie, une région dissidente qui accuse l'Érythrée d'aider l'armée éthiopienne, l'Éthiopie qui combat les forces du Tigré. Les roquettes ont frappé les abords de l'aéroport d'Asmara. Depuis quelques jours, les troupes du Tigré combattent l'Érythrée sur plusieurs fronts. À Addis Abeba, en Éthiopie, Noé Ochebaudin.
Plusieurs fois cette semaine, le parti TPLF a assuré que l'Érythrée s'était militairement engagée dans la guerre au Tigré, d'abord par des tirs d'artillerie, puis des incursions dans les villes frontalières. Une information confirmée par une source sur place, mais encore démentie par le gouvernement érythréen. Alors l'implication de l'Érythrée dans les combats est encore incertaine aujourd'hui, mais l'hostilité entre les deux voisins ne fait-elle aucun doute. Anciens frères d'armes, dans les années 1990, les leaders érythréens et tigréens, entre-temps devenus maîtres de l'Éthiopie, se sont progressivement éloignés jusqu'à devenir meilleurs ennemis, ce qui déboucha sur une guerre frontalière de 1998 à l'an 2000. L'attitude du président érythréen Isaias Afwerki envers l'Éthiopie a changé il y a seulement 2 ans, après l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, membre de l'ethnie Oromo. Un accord historique sera signé entre les deux pays qui vaudra un prix Nobel de la paix au premier ministre éthiopien. À l'époque déjà, certains observateurs affirment que le principal objectif de cet accord de paix serait en fait une alliance contre le TPLF. Depuis, Abiy Ahmed et Isaias Afwerki affichent une grande complicité, ne serait-ce que le mois dernier, en tenant une visite d'État de 3 jours à Addis Abeba, où ils ont notamment visité une usine d'armement près de la capitale. Une trahison avait alors déclaré le TPLF. Addis Abeba, Noé Ochebaudin, France Inter.
Et en Arménie, un dirigeant de l'opposition a été arrêté et accusé d'avoir voulu tuer le Premier ministre Nikol Pachinian. L'homme est un ancien chef des services de sécurité. La signature d'un accord de paix avec l'Azerbaïdjan après 6 semaines de combats meurtriers dans le Haut-Karabakh avait provoqué des manifestations de colère en Arménie. L'opposition exigeait la démission de Nikol Pachinian. Le Premier ministre arménien expliquait qu'il n'avait eu d'autre choix que d'accepter ce cessez-le-feu. Régis Jonté.
L'humeur change en Arménie et au Haut-Karabakh et le cessez-le-feu signé dans la nuit de lundi à mardi apparaît comme la solution qu'il fallait prendre. Après la stupéfaction qui reste 5 jours après la signature d'un cessez-le-feu synonyme de capitulation, les opinions tentent de se faire à la lumière des informations et analyses qui circulent. La manifestation de mercredi, qualifiant le Premier ministre Nikol Pachinian de traître, est désormais regardée par beaucoup avec dégoût. C'est ce que nous racontait Armen ce samedi, un habitant de Kelbajar qui vidait sa maison pour toujours. Le district devant être rendu à l'Azerbaïdjan ce dimanche matin.
Les manifestants sont surtout ceux qui se sont cachés dans leur maison pendant la guerre, sous les jupes de leur maman, profitant de leur salaire. Pendant ce temps-là, ici, au front, c'était les vrais hommes qui se battaient, qui sont tombés pour la libération de leur terre. Ces manifestants ne sont jamais venus ici. Pendant les 45 jours de guerre, on n'a pas pu réunir 45 de ces manifestants.
Nicole Pachinian se défend, bec et ongles. Il a notamment révélé qu'il avait signé ce document, négocié par le président russe Vladimir Poutine, après des demandes répétées des dirigeants de l'armée arménienne et du Haut-Karabakh. Yerevan, Régis Janté pour France Inter.
C'est un accord qui engage 15 pays d'Asie et du Pacifique, un vaste accord de libre-échange qui concerne 2 milliards d'habitants, un accord commercial signé ce matin en clôture du sommet des nations de l'Asie du Sud-Est et qui va permettre à la Chine d'asseoir son influence économique sur l'Asie et le Pacifique, Simon Leplâtre.
C'est une victoire pour la mondialisation. Le partenariat régional économique global crée une vaste zone de libre-échange en Asie en réduisant les taxes à l'import sur la plupart des produits manufacturés et en harmonisant des règlements pour faciliter la vie des entreprises de la région. Le partenariat rassemble les 10 pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est et la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Effectivement, la Chine est la plus grande gagnante de cet accord et ce pour trois raisons. D'abord parce que la Chine est soumise à des droits de douane très importants des États-Unis qui ont poussé certaines entreprises à se relocaliser vers d'autres pays d'Asie. Dans ce contexte, développer des échanges avec ses voisins asiatiques est une bonne chose pour la Chine. Ensuite, parce qu'il y a 2 ans, les États-Unis se sont retirés d'un projet similaire, le TPP, sous l'impulsion d'un Donald Trump protectionniste. La Chine, rivale des États-Unis, ne faisait évidemment pas partie de cet accord. Ici, elle reprend la main. Et enfin, parce que ce genre d'accords commerciaux ont tendance à bénéficier aux plus puissants acteurs régionaux. Ici, c'est le Japon et surtout la Chine, plus grande économie d'Asie et premier exportateur mondial. À Shanghai, Simon Leplâtre pour France Inter.
Et nous ouvrons une page consacrée au Vendée Globe, 9e édition de cette course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Une semaine tout juste après le départ, le Britannique Alex Thompson vient de prendre la tête de la course à Jean Le Cam qui menait jusqu'à présent. Hier, Jérémy Bayou a regagné les Sables d'Olonne, victime d'une succession d'avaries. On fait le point avec Emma Sarangueux après une semaine de course.
Avant même la première tempête, après 3 jours de course, un choc avec un OVNI, objet flottant non identifié, met fin au rêve de victoire de Jérémy Bayou pour son 4e Vendée Globe. Contraint de faire demi-tour pour réparer, le skipper Charal et son foiler arrivent hier midi dans le chenal, applaudis par les sablés venus le réconforter.
Aïe, aïe, aïe. Jamais rien fait aussi dur.
Bayou se laisse jusque demain pour décider s'il repart ou non sans espoir de sacre. À l'avant de la flotte, l'autre favori Alex Thompson et son foiler Hugo Boss rencontrent un obstacle inattendu. Le vétéran, le doyen Jean Le Cam, 61 ans, qui à bord de son monocoque vieux de 13 ans, prend tantôt la première, tantôt la deuxième place. Le Britannique est bluffé.
Jean Le Cam, mon Dieu, il est incroyable.
Après avoir traversé la dépression Theta, les leaders creusent l'écart avec la queue de la flotte. 1500 km par exemple entre Alex Thompson et Armel Tripon, c'est énorme. Entre les deux, Clarisse Kremer sur Banque Populaire savoure ses œufs au bacon avant de se renverser du thé bouillant sur l'entrejambe et réussit quand même à en rire.
Et quelle aventure ce truc, quoi. Je commence tout juste à me dire que je suis partie pour le Vendée Globe. Et à accepter que je maîtrise rien.
Les aliseurs approchent, les skippers peuvent souffler un peu pour la première fois depuis le départ.
Wouhou !
Et Yannick Bestaven saisit l'occasion.
On est samedi soir et c'est boîte de nuit à bord de Maître Coq.
Invité de ce journal, Yann Eliès, consultant de Radio France sur le Vendée Globe. Bonjour Yann Eliès.
Bonjour.
Alors vous avez participé 2 fois au Vendée Globe et vous terminez 5e en 2016 et on va le souligner parce que c'est une très belle performance. Vous terminez premier du classement des bateaux à dérive. Alors Yann Eliès, on vient d'entendre Emma Sarango, il s'en passe des choses à bord durant ce 110 jours de course. Il faut faire attention à sa tasse de thé, on vient d'apprendre. Et puis il y a des bateaux transformés en boîtes de nuit. Voilà pour le sourire de la course. Parce que l'on dit, Yann Eliès, que cette course, le Vendée Globe, est sans doute la course la plus dure au monde.
Oui, bah c'est vrai que son schéma si particulier, c'est-à-dire faire le tour du monde en solitaire et sans escale, force à l'excellence à tout point de vue, sportivement, mentalement et puis aussi techniquement, puisqu'il faut savoir réparer son bateau par ses propres moyens. Et donc c'est pour ça que cette course est aussi exceptionnelle. Alors on en est qu'à au premier dixième de course pour les plus rapides qui devraient mettre 70 jours, mais on a déjà vu que pendant cette première semaine, il s'est quand même passé déjà beaucoup de choses, avec notamment la mise au tapis du principal favori qui était Jérémy Bélier, un beau copain. Ouais. Pour qui j'ai effectivement beaucoup de peine aujourd'hui.
Il a abandonné tout espoir de gagner la course avec une semaine de retard sur les autres concurrents. On dit que la course pourrait être bouclée en moins de 70 jours.
Oui, je crois que Armel Lecléache, vainqueur du dernier Vendée Globe, a mis 74 jours. Donc avec des bateaux plus performants, on pense qu'effectivement il pourrait être bouclé en 70 jours. Mais là, finalement, n'est pas l'essentiel, hein, puisque c'est pas une course au record ni au temps. Il suffit juste d'arriver devant les petits copains. Et donc, voilà, j'imagine que Alex Thompson ou Apivia ou Thomas Ruyant se suffirait non pas de battre leur corps, mais simplement d'arriver devant les petits copains.
Cette course, Yann Elias, c'est un marathon, une succession de marathons, si on pouvait la comparer à d'autres sports.
Oui, tout à fait. On voit que il va y avoir un principal tronçon qui est la descente de l'Atlantique, qui est stratégiquement vraiment important pour les premiers, parce qu'elle va façonner la tête de la flotte à l'entrée des mers du Sud. Là, c'est vraiment un tronçon qui va leur prendre quasiment 15 jours. Ensuite, on a le contournement du pôle sud qui va être dur parce que les conditions de mer sont extrêmement compliquées. Et puis ensuite la remontée de l'Atlantique, où là on fera un point et l'état des lieux des marins et de leurs bateaux, et de savoir qui pourra jouer la gagne. Donc on voit bien qu'effectivement c'est comme un Ironman, hein, c'est une succession de courses et de tronçons qui en eux-mêmes sont compliqués, mais qui viennent s'additionner et qui constituent ce tour du monde.
Alors là, les skippers abordent une période de calme, hein, ils approchent de l'équateur, et puis vous en parliez, les mers australes, les 40e hurlants, les 50e rugissants, à quoi êtes-vous confronté dans ces...
Alors là, effectivement, oui, après avoir un début d'Atlantique Nord très compliqué, on a vu que les bateaux et les marins ont extrêmement souffert. Ça y est, enfin, ils peuvent vraiment profiter de leurs bateaux et de bonnes conditions. Là, on va avoir effectivement des images et des skippers un peu plus souriants pendant les 15 premiers jours, puisqu'ils vont essentiellement évoluer dans l'Alizé, un vent chaud et assez stable, d'une vingtaine de nœuds. Bon, il y aura quand même le passage de l'équateur qui va être compliqué pour eux à négocier. Et puis, ils feront leur entrée dans le Grand Sud à partir du Cap de Bonne-Espérance. Mais ça, on a encore une petite dizaine de jours devant nous. Et c'est ça qui constituera effectivement le premier vrai test pour les machines et pour les hommes.
Comment on se sent, à quoi on pense quand on est tout seul dans l'océan, démonté, loin de tout le monde? On se dit, waouh, la nature nous tolère juste?
Oui, ça ce sera pour le contournement du pôle sud. Effectivement, là, en ce moment, les bateaux sont dans des zones connues. Beaucoup ont déjà traversé l'Atlantique, voire ont déjà franchi le poteau noir, mais finalement, peu sont ceux qui sont allés dans les mers du sud. Et donc, effectivement, là, on se sent vraiment loin de tout, loin de ses proches, loin de la Terre, loin des êtres humains, tout simplement.
Merci Yann Elias, consultant de Radio France pour le Vendée Globe, et vous avez participé deux fois à cette édition. En Formule 1, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Turquie. Il égale également le record du monde de 7 titres de champion du monde de Michael Schumacher, et il devient également le record du monde après cette victoire au Grand Prix de champion du monde, pardon, après sa victoire au Grand Prix de Turquie. Après les océans, l'espace, avec un événement important la nuit prochaine, la fusée SpaceX et la capsule Crew Dragon environ dans l'espace. Ces quatre astronautes vers la station spatiale internationale. Un premier vol de démonstration a eu lieu l'été dernier. Le vol de ce soir concrétise la reprise des vols habités depuis les États-Unis. États-Unis. L'Amérique est donc de retour et la Russie perd son monopole d'accès à l'espace. Thomas Pesquet, qui empruntera la même fusée et la même capsule dans 6 mois pour sa mission sur à bord de l'ISS. Thomas Pesquet utilisé la capsule Soyouz, la capsule Soyouz lors de son premier vol. Il utilisera cette fois-ci la capsule Crew Dragon. C'est donc le mieux à même pour comparer les deux systèmes. Il est avec Sophie Becherel au téléphone.
Le Soyouz, ça fait quand même 40 ans que ça vole, c'est 200 vols de suite sans problème. Donc il y a une confiance qui fait que voilà, on fait toujours les choses exactement de la même manière parce qu'on sait que ça marche, parce que c'est prouvé que ça marche. Et en plus, les Russes, dans leur approche, il y a vraiment cette attitude, tant que ça marche bien, on change pas. Là, c'est nouveau en fait. Là, c'est vraiment une capsule qui a volé une fois. Alors le Falcon 9, le booster, il a volé pas mal de fois pour des missions satellites, les missions Starlink, etc. Mais la capsule, vraiment, c'est la première fois. Donc on découvre encore un petit peu. Ce qui fait qu'on a tendance à beaucoup calculer, beaucoup analyser, beaucoup prendre de précautions. Donc notamment, on le voit sur les conditions de lancement pour la météo. En ce moment, on est encore très frileux à Cap Canaveral. Dès qu'il y a un petit peu de vent, s'il y a un peu d'orage à proximité, on interrompt le lancement. Alors que les Russes, eux, ils lancent dans le blizzard et ça leur pose pas vraiment de problème. Une fois qu'on aura lancé 10, 15, 20 capsules, évidemment, on diminuera un petit peu les marges, on fera les choses un peu différemment. Mais pour l'instant, bien qu'on commence les vols de série, on va dire, on prend encore beaucoup de précautions.
Thomas Pesquet avec Sophie Becherel. Le temps pour demain.